Véronique, par Warwick Deeping. La route courait dans le fond d'une vallée, entre des bois, des prairies et des fermes. Un ruisseau, de loin en loin, lançait vers elle un nœud coulant, puis disparaissait sous les futaies ou par-delà les herbages. Les yeux de Dennison ne se détachaient pas de la route, étroite et capricieuse, toute creusée de fondrières, elle exigeait la plus grande attention d'un agent motocycliste faisant 40 000 à l'heure. D'autant que toutes sortes d'affreux débris l'encombraient. Des cadavres d'hommes et de chevaux, un wagonnet amputé d'une roue et sortant à demi d'un fossé, ça et là, un casque à pointe ou un fusil, ou quelques reliques sanglantes abandonnées dans la précipitation de la retraite. Dennison filait de toute la vitesse de sa machine, les yeux dardés haut, la bouche contractée, le visage aminci, tiré, famélique. Il passa, déchirant l'air, près d'une ligne de forme brune allongée sur l'herbe au bord de la route. Plus loin, une patrouille, la baïonnette croisée, cria « Halte là !» Il s'avança, raclant le sol de ses semelles. « All right !» Le plus court chemin pour la division Sanderson, terrible urgence, doit arriver à tout prix, dépêche capitale. Il parlait par saccades et par raccourcis. Un maigre sergent, aux prunelles congestionnées, inclina la tête et de son fusil montra la route. « Tout droit. Vous trouverez par là, les camarades. » Par là, les canons tonnaient. Mais Dennison s'était habitué au tonnerre des canons. Leur grondement était devenu quelque chose comme le bruit de la circulation à Londres. Une rumeur si continue qu'on finissait par ne plus l'entendre. La vallée, en s'élargissant, montrait des champs plats, des cultures, des rangées de peupliers le long des chemins et des ruisseaux. Quelques-uns des arbres, frappés par les projectiles, dressaient des espèces de moignons en loques. Dennison passa devant un gros de troupes rangées par terre, à couvert. Une batterie attendait, dissimulée par des branchages et par des meules d'avoine à demi incendiées. Et tout d'un coup, au tournant d'un bois de peuplier, il entra dans la zone de feu. La glaive giclait en mottes rougeâtres. Les obus décrivaient distinctement leur parabole. Un fracas diabolique régnait. Pourtant, cela faisait l'effet d'un bombardement sans cause et sans but. Aucun objectif n'apparaissait. On eût dit que les Allemands insultaient la campagne vide. Dennison hésita. Une grimace tordit sa bouche. Ses yeux se rétrécirent. Deux hommes, en uniforme sombre, tapis dans un fossé, guettaient par-dessus le talus. Dennison ralentit et les héla, mais sa voix se perdit dans le vacarme. Il dut quitter sa machine et les rejoindre dans le fossé. Division Sanderson, dépêche importante. Grande masse ennemie qui nous arrive sur le flanc. Direction à suivre. Un des Tommies mâchonnait le bout d'une cigarette. Elle lui resta collée à la lèvre inférieure tandis qu'il parlait. « Voyez-vous là-bas cette colline avec ce bouquet d'arbres ?»« Oui. La division Sanderson est là. Prenez à 50 yards d'ici la route sur votre gauche. Ça chauffe, hein ?» Dennison quitta le fossé, sa figure devint un peu plus pâle. Une étrange sensation de vie l'envahissait. Il lui semblait que son cœur, s'amollissant, lui montait à la gorge. Pour lui, qui le mois d'avant travaillait dans un bureau, sa mission volontaire n'offrait présentement aucune joyeuse perspective. Il revint à sa machine, serra les dents, et bien en face, regarda la tourmente balayer la campagne. Il entendit gémir un obus qui se rapprochait. Il vit sa tache noire fendre le ciel et resta fasciné, étreignant les poignets de sa machine. À 30 yards devant lui, l'obus frappa le tronc d'un grand peuplier. L'arbre craqua et s'abattit, bloquant la route. Dennison, les yeux écarquillés, se surprit à murmurer des choses d'un ton de voix confidentiel. Marchez quand même. Coup de collier à donner. Pas à barguigner. Mais le plus clair de cette féroce blague. Il se força d'avancer, sentant qu'il allait perdre courage. Il poussa sa machine, la souleva par-dessus l'arbre tombé, puis de nouveau hésita. Un autre de ces satanés obus arrivait. Dennison en perçut la déchirante menace. Et violemment, tout d'un coup, il mit sa moto en marche. Courbé sur la selle, il n'avait plus qu'un désir désespéré d'aller jusqu'au bout, d'en finir avec cette affaire. Il filait, la tête basse. L'obus éclata, comme un énorme pétard japonais dans le champ à gauche de la route. Dennison crut entendre un cri derrière lui, mais sa machine l'emportait à la vitesse de 50 000, et ne s'attacha pas à l'idée que le cri pût s'adresser à lui. Il avait à gagner cette colline, là-bas, cette colline, avec un bouquet d'arbres. La route à gauche. Il filait tout droit, le regard tendu. Cette route à gauche, où pouvait-elle être? Maudite route, à 50 yards, avait dit le Tommy. Mais les Tommy ont parfois des idées si vagues. Il ne pouvait pourtant pas l'avoir manqué en cherchant à entrevoir le deuxième obus. Alors il se souvint que quelqu'un avait crié. Un peu plus d'effarement sembla se peindre sur sa figure. Il ralentit, tituba, s'arrêta. Mieux valait rebrousser chemin et voir s'il n'avait pas manqué la route à gauche. Encore un obus qui s'annonçait. Dennison fit faire demi-tour à sa machine et repartit. La déchirante, l'affolante plainte se rapprochait sans cesse. Un instinct qui le pencha sur son guidon l'avertissait que la chose était au-dessus de sa tête. Ping ! Et ce fut l'événement inexprimable. Il se sentit glisser, glisser dans une ombre indéfiniment molle. Puis l'ombre se referma sur lui et tout s'arrêta. À l'hôpital, on l'appelait l'anglais taciturne. Il restait couché, la mine creuse et inexpressive, la manche gauche de sa chemise épinglée en travers de sa poitrine, la tête bandée de linge. Il parlait le français, il le parlait même très bien. Sœur Thérèse avait découvert cela, mais apparemment, il n'avait aucune envie de parler. Rien ne le tirait de sa torpeur. Il restait couché, regardant la muraille. Un zouave, son voisin de lit, le vit, une fois palpé d'un air étonné sa manche vide, puis, les yeux pleins de larmes, enfonçait son visage dans son oreiller. Le pauvre! Ses infirmières françaises, ses blessés français, tout le monde lui témoignait de la bienveillance. Mais il considérait les choses avec les yeux d'un dormeur mal réveillé. On eut besoin des lits. On évacua les blessés transportables. On les mit dans un train qui s'en allait vers le couchant. Dans ce train, Dennison se retrouva avec des Anglais, des Tommy à l'intarissable verve, qui dévidaient mille histoires et blaguaient et chantaient à cœur joie. Ils formaient une bande disparate, un canonnier, deux fantassins, deux lanciers, un sergent de l'intendance. Ils témoignèrent à Dennison une bonté joviale. Ils l'installèrent confortablement dans un coin et attendirent qu'il leur contât son histoire. Mais Dennison n'en fit rien, car il était d'une fibre plus sensible que tous ces robustes gaillards. Il éprouvait, juste à ce moment, une égale détresse morale et physique. Ils lui demandèrent comment il avait été blessé, à quoi il répondit que s'étant offert pour une mission d'agent motocycliste, il avait été frappé par un obus pendant que les Allemands se repliaient de mou. Puis il ferma les yeux et se recroquevilla dans son coin. Son silence obstiné les étonnait, mais le sergent hocha la tête d'un air d'indulgence qui voulait dire « Le pauvre diable est bien touché, laissons-le tranquille. » Et ils le laissèrent tranquille, car Tommy a tous les instincts du gentleman. Puis ils se remirent à causer. « Je me trouvais dans la division Sanderson, » disait l'un d'eux. « Ce n'était pas la moitié d'un enfer, je vous assure. N'empêche qu'on faisait du beau travail. On cognait sur les saucissons quand voilà qu'ils débouchent sur notre flanc par masse. L'affaire prenait une vilaine tournure. Il fallut un moment battre en retraite, et nous eûmes chaud pendant la manœuvre. Alors périt le capitaine Begbie, la tête emportée nette. Marié un mois avant la guerre, un brave. « Mais, » dit le sergent d'un ton de critique, « comment se fait-il que les saucissons vous tombèrent sur le flanc ? Ça n'aurait pas dû être possible. » Il eut là quelque anicroche. « Je tiens d'un camarade à moi, des Devonshires, qu'un mirliflore qui nous portait une dépêche se trompa de route et fut tué. Toujours est-il que la dépêche ne nous parvint pas. Du moins, le général négligea de m'en prévenir. » Un des lanciers intervint sur un ton irrité. « C'est bien cela. C'est ce que je répète sans cesse. » On vous prend un tas de freluquets, on vous les plante sur des bécanes et en route avec des ordres graves. Bien sûr, je ne mets pas en cause leur courage, mais... » Le sergent secoua le pouce dans la direction de Dennison, le lançait tout ça et se tut. Puis on parla d'autre chose. Mais Dennison avait tout entendu. Le remords le torturait affreusement. Pas de doute, il était coupable. Il avait manqué ce tournant. Il l'avait manqué dans une seconde de faiblesse, en cherchant à entrevoir un de ces obus qui gémissaient au-dessus de lui. Des centaines de camarades avaient été tués et blessés parce qu'il avait, lui, flanché une seconde et pensé à sa peau, quand il aurait dû tenir ses yeux braqués sur la route. Il s'abîmait dans la honte et le désespoir. Il perdait tout sentiment des proportions. Il ne consentait pas à admettre qu'un homme peut faillir sans forfaire. Une main se posa sur son épaule. « Eh bien, ça ne va pas, mon vieux, qu'y a-t-il ? » Ouvrant les yeux, il vit la figure du sergent. Une bonne figure sympathique. Et alors, il se rendit compte qu'il frissonnait, comme un homme en plein accès de fièvre. « Oh, rien !» « Bon Dieu, mais vos grelottes vont faire trembler la banquette. Vous avez froid ?»«
Un peu. »
Quelqu'un avait une bouteille de cognac. On se la passa de main en main et on le fit boire. Puis un des canonniers offrit son manteau. Le sergent y roula Denison. « Allons, mon vieux, courage. Vous ne tarderez pas à être chaud dans un bon lit. » Denison remercia et ferma les yeux. Il dut se mordre la langue pour ne pas fondre en larmes. Ce voyage en chemin de fer semblait ne jamais devoir finir. Le train allait lentement, lentement, et s'arrêtait à d'innombrables gares où des quantités de gens attendaient pour offrir aux soldats des fruits et des cigarettes. Enfin on arriva. C'était dans une vieille ville bretonne entourée de vergers. Une grande bâtisse de pierre, jadis couvent de nonnes, avait été aménagée en dépôt de convalescents. Ce vieux couvent, avec son beau jardin, était la plus étrange et la plus aimable des résidences. Puis les gens de la ville semblaient avoir dévalisé leur maison pour assurer aux Anglais tout le bien-être. Cidre, fruits, cigarettes, et la qualité de la nourriture, rien ne manquait à Tommy. Et des colloques bruyants animaient ces murs de monastère. Enfin, il y avait là un jeune médecin anglais qui montrait la science et la sagacité d'un maître et qui se rendait populaire parmi les blessés en leur offrant des jeux de cartes. Denison ne sortait pas de son abattement. Au lieu de se refaire, de s'égayer, il devenait de plus en plus morne. Ses griefs contre lui-même tournaient à l'idée fixe. Par surcroît, il commençait d'imaginer que ses camarades, sachant quelque chose, s'éloignaient de lui. Effectivement, il le laissait seul, lui croyant le cerveau un peu troublé. C'est alors qu'intervint le docteur anglais. Dans un coin reculé du jardin, un banc se cachait sous une tonnelle de chèvrefeuilles et de roses grimpantes. Denison en avait fait sa place favorite, son refuge. Le docteur Ryder s'avisa de l'y surprendre. « Voyons, parlez-moi franchement, Denison, qu'avez-vous? Est-ce cette manche vide qui vous chagrine ?» Denison considéra la pointe de son pied droit. « Non, ce n'est pas cela, » dit-il. « Craignez-vous de ne pas retrouver votre situation en Angleterre ?»« Ce n'est pas cela non plus. J'ai quelque argent à moi et je travaille dans le bureau de mon oncle. Alors quoi ? La guerre vous a démoli le système nerveux ?» Le pied de Denison allait et venait, imprimant son talon sur le sable. « Je ne peux pas supporter la compagnie, » fit-il d'une voix saccadée. « Je ne peux pas supporter la présence des camarades. Je comprends. J'aimerais m'en aller très loin, tout seul, là où il n'y a pas un bruit à entendre. Pourtant, le bruit de la mer ne me gênerait pas. Je resterai assis devant la mer, à la contempler, à l'écouter pendant des heures. » Ryder fit un geste approbatif. « Oui. Il vous faudrait autour de la tête une compresse de silence. C'est bien, Denison. Je vais voir ce que je peux faire. » Il fit si bien. Une antique guimbarde emportait qu'un cas le malade vers le village de Saint-Mélaine. Un grand panier et un grand mouchoir bleu, où Denison avait fourré toutes sortes d'objets achetés à la ville, constituaient son bagage. La fin de l'après-midi le trouva installé à une fenêtre basse, dans une ferme de la côte, dont le nom évoquait la joue et la tempête. C'était un lieu primitif, enchanté. De sa fenêtre, Denison voyait la mer grise de Bretagne, luisante de soleil, le golfe, les deux promontoires battus des vents, le grand bâillement noir des falaises, les espaces de sable jaune et de masses rocheuses que découvrait la marée descendante. Du côté de la terre, pendant des lieues, la terre roulait ses bruyères sous le bleu et le blanc du ciel. Des pommiers bancroches, autour de la ferme, s'arc-boutaient obliquement contre les rafales. Un troupeau d'oies traversait la prairie, en file, s'en revenant vers la basse-cour. La maison se composait du fermier, le père Calac, de la vieille Marthe, qui semblait un morceau de granit rouge, et de Véronique. Sylvestre, le fils unique, était à l'armée. Mais Véronique valait presque un homme et suppléait son frère. Elle était allée chercher Denison à la porte, et lui prenant la main avec cette franchise décidée qu'elle mettait en toute chose. « Nous aimons les Anglais de bonne amitié. Nous sommes fiers de vous recevoir, » lui avait-elle dit. Pendant le souper, il arriva plus d'une fois à Denison de l'observer subrepticement, entre deux bouchées, ou dans les intervalles d'une conversation à bâton rompu avec le père Calac, qui voulait tout savoir de la guerre, de l'Angleterre, des troupes. Véronique était peu expansive. Elle avait des yeux sombres, pleins de mystère, une bouche énergique et bienveillante, mais son air de force tranquille, c'était ce qui impressionnait Denison. Il se sentait tout petit garçon près d'elle. Les nuits devenaient fraîches. Après le souper, on s'assit devant le feu dans la cuisine. Les deux hommes fumaient. La vieille Marthe tricotait pour les soldats. Véronique cousait une chemise. De temps à autre, elle plaçait un mot en regardant Denison de ses yeux brillants et sérieux. « Les Anglais sont très braves. On nous a dit qu'ils avaient beaucoup aidé au salut de la France. » Toujours cette ancienne sur la bravoure anglaise. La tristesse de Denison commençait de fondre à la gaieté de la flamme. Les paroles de Véronique le touchaient au vif, augmentant son mépris de lui-même. « La guerre est une horrible chose, » fit-il, absorbé par la contemplation du feu. Quand il alla se coucher, Véronique lui alluma une bougie. « Vous réclamerez, n'est-ce pas, monsieur, s'il vous manque quelque chose ?» Volontiers, il lui réclamait la paix intérieure. Ces deux premiers jours chez le père Callac, il les passa étendus sur l'herbe, au sommet de la falaise, uniquement occupé de la mer et du ciel. L'air salin le grisait. Il ne souhaitait rien que de rester couché sur le dos, à regarder le voile circulaire des mouettes au-dessus de sa tête ou la fuite des images accourues de l'horizon. Puis, il explora la baie. Un sentier à pic descendait la falaise, menant à une grande demi-lune de sable. La vaste étendue de plage que laissait voir le jusant était comme un jardin de la mer, avec des étangs, de petites allées sinueuses et de grandes roches que les plantes marines habillaient de vert, de pourpre et d'or. Très en avant dans la baie, Denison découvrit deux énormes rochers plats se faisant suite, mais séparés par un chenal d'environ 10 yards de large. On eût dit les tourelles d'un château. Une sorte de chaussée grossière y conduisait du rivage. Comme il se tenait sur l'un de ces rochers, observant la rapide montée du flot dans le chenal, il entendit qu'on l'appelait. Une forme se dressait au bord de la falaise, une forme noire coiffée d'un bonnet blanc. C'était Véronique. Elle lui faisait des signes. Il s'en revint par la chaussée, et il n'avait pas encore rejoint les sables qu'il était tout surpris de voir, à l'intérieur du chenal, la marée déjà si haute. Par le sentier de la falaise, Véronique descendait à sa rencontre. « Il faut que vous preniez garde, » dit-elle. « Il n'est pas prudent de rester là quand la marée monte. »« On peut se laisser surprendre ?»« Cela s'est vu. Et dans toute la baie, il n'y a que 2 barques. Celle du vieux Jean, là-bas, et de l'autre côté, celle de Paul Brieux. » Denison promit d'être prudent. Tout d'abord, pendant plusieurs jours, il s'en fut comme à la dérive, morne. Là, mais soulagé pourtant, parce que son cerveau avait cessé de penser. Il rôdait parmi les bruyères ou le long des falaises. Il aidait Véronique à cueillir des pommes. Il la regardait traire les vaches, s'occuper au jardin. Il y trouvait une satisfaction particulière. Véronique avait en elle quelque chose de primitif et d'apaisant. Il semblait prendre plaisir à la voir près d'elle. Dans son cœur de femme, la pitié s'éveillait pour ce blessé à qui la bataille avait enlevé un bras. Elle le regardait avec des yeux plus doux. Elle lui parlait d'une voix attendrie comme à un enfant malade. Ils eurent bientôt fait d'abolir entre eux les cérémonies. Elle lui demanda son petit nom et désormais l'appela Henri. Lui, dans sa pensée, ne l'avait jamais appelé que Véronique. Leur camaraderie s'accrut encore de la différence que mettaient entre eux leurs origines. Denison, homme des villes, avait les curiosités des hommes des villes pour tout ce qui concerne la vie des champs. Véronique lui faisait des conférences agricoles, les plus délicieuses des conférences, les moins académiques dont un homme pût rêver. Elle lui disait les noms des pommes et des poires, et lesquelles sont bonnes pour le cidre. Elle renseignait sur les mœurs des abeilles, sur l'usage des simples, sur la sagesse des oies. Parfois elle s'efforçait de le faire parler sur la guerre, mais elle s'aperçut bien vite qu'il en parlait à contre-cœur. « C'est une grande folie, » confessait-elle. « Le bon Dieu doit vouloir punir ces Allemands. » L'ingénuité de cette foi chrétienne fut pour lui une révélation. « Heureux qui peut croire en Dieu, » disait-il. « N'est-il pas là, partout, autour de nous, et veillant sur les troupeaux ? Si la terre et nos cœurs donnent de bons fruits, c'est que Dieu est avec nous et que la Vierge nous prend en miséricorde. » Denison eut quelques jours heureux. Il échappait au remords, à cet atroce remords engendré par la fièvre et l'angoisse. Il sortait d'un long cauchemar consécutif à un excès de souffrance. Il venait de faire une découverte. Peut-être cette existence de ferme bretonne allait-elle le guérir, quand un matin il reçut une lettre de Paris qu'il avait cherchée d'adresse en adresse. Elle était d'un lieutenant de ses amis qui servait dans l'infanterie. Le tombadin en accusait le tragique. « J'apprends que, après vous avoir traîné de tous les côtés, on a fini par vous expédier en Bretagne. » Et comme me voilà dans un lit avec une jambe en moins et du temps de reste, l'idée me vient de vous écrire. Je faisais partie de la division Sanderson. Une dépêche de laquelle dépendait pour nous le ciel ou l'enfer ne nous arriva pas. Ce fut l'enfer. Quelle canonnade! ma compagnie perdit 70 hommes. Le pauvre vieux Jakes, qui venait juste de recevoir une lettre de sa femme, avec un griffonnage de son petit dernier, frappé en plein à la tête, et dire que tout cela aurait pu être évité. De nouveau, l'horreur s'apesantit sur Dennison à la lecture de cette lettre. Devant lui, la vision se leva d'hommes fauchés par les obus et les mitrailleuses, d'hommes indescriptiblement mutilés, d'hommes qui, pour ne pas crier, se mordaient les lèvres. Il était assis sur la falaise dominant la baie. Il se tourna, s'allongea, cacha son visage entre les herbes. Mais sous ses paupières baissées, la vision se fit encore plus précise. Son cerveau était un écran noir où dansaient des figures de feu. Il conçut un désir aveugle d'échapper à ses pensées. Puis, dans son désespoir, il imagina qu'il pouvait réparer en se punissant lui-même. Alors il se redressa et regarda la mer. La mer montait. Soudain, il aperçut les deux rochers debout devant lui, pareils à deux tourelles. Il les considéra un instant d'un air tout à fait tranquille et détaché. L'idée se précisait, s'élaborait. Sitôt qu'elle eut pris forme, il se leva d'un bond et, comme un fou, se mit à descendre en courant le petit chemin à pic de la falaise. Il traversa les sables. Il se faufila jusqu'à la chaussée, entre les rocs et les flaques, et elle le conduisit dans la baie, vers les deux noirs rochers qui allaient être les autels du sacrifice. Il atteignit le plus proche au moment où, déjà, l'eau affleurait la chaussée. Il y grimpa, marcha jusqu'au bord du chenal qui le séparait de son jumeau, et il regarda l'îlot s'avancer à l'intérieur. La mer était calme. L'eau montait avec une promptitude insidieuse. Il n'y avait qu'à traverser le chenal et attendre. La retraite lui serait coupée. L'expiation viendrait, inévitable. Alors, du haut des falaises, un cri arriva jusqu'à lui. Il se retourna, leva la tête et vit qui agitait les bras dans sa direction, Véronique. Il ferma les yeux une seconde, serra les dents, puis il s'engagea dans le chenal et, tant bien que mal, se dirigea vers le rocher en face. L'eau jouait par-dessus la plateforme inférieure. Il n'y prit pas garde et commença d'escalader le rocher. Mais il n'y avait qu'une main pour s'aider dans l'escalade. Aux trois quarts de la hauteur, ses pieds glissèrent. Il tomba à la renverse. Sa tête porta contre une roche. Il resta là, étourdi. Cependant, Véronique, immobile, attendait de voir Dennison reparaître. Était-il fou? Puis, saisie d'une obscure terreur, elle commença de dégringoler le petit chemin. Elle avait de l'eau jusqu'aux genoux quand elle atteignit la chaussée. Il devait aller avec prudence, à tâtons, les jupes plaquées aux chevilles. Elle ne cessait pas de crier en s'avançant « Henri, Henri !» Elle atteignit le premier rocher, le gravit, et regardant du côté de l'autre, aperçut en bas le corps inanimé de Dennison léché par les vagues. Peu de gens auraient cru possible qu'une femme, pour sauver un homme évanoui, le hissa le long du roc. C'est ce que fit Véronique. Mais, alors, elle vit que la hauteur croissante du flot sur la chaussée lui fermait la retraite. À ses pieds, Dennison gisait, insensible. Elle mit ses mains en porte-voix et elle appela, espérant qu'on l'entendrait de la terre. L'eau menaçait de couvrir le rocher quand le vieux Jean apparut sur la falaise. Il venait lancer son bateau pour la pêche. Elle appela. Le vieillard l'entendit et il comprit le danger. Il descendit la falaise, tel un bon petit gnome brun, et clopin clopant, tout d'une haleine, courut aller son bateau sur le sable. Véronique avait de l'eau jusqu'à mi-jambe. Elle tenait Dennison dans ses bras, car il était toujours sans connaissance. Enfin, le vieux Jean put les recueillir dans sa barque. Ils étaient sauvés. Pour que, de sa chambre, Dennison, sans se lever, pût voir la mer, on avait tiré son lit près de la fenêtre. Ce dimanche-là, le père Callac avait fait l'effort d'aller jusqu'à Saint-Mélaine, fumer une pipe avec un ami et savoir les nouvelles. Marthe était à la messe, Véronique n'avait pas quitté la maison. Car là-haut, quand elle avait porté son café au malade, il avait tendu le bras vers elle dans un geste pathétique. « Véronique, j'avais l'idée de me tuer. Je voudrais vous dire pourquoi. » Et cherchant à lire sur le visage de la jeune fille, « Vous ne me mépriserez pas, Véronique. Je vivais dans un enfer. » Elle approcha du lit une chaise et s'assit, les mains pliées entre les genoux, les yeux posés sur Dennison avec une douce pitié. Dennison supportait mal le regard de Véronique. Il tourna vers la fenêtre son maigre visage et pensa à la façon dont elle l'avait sauvé de la mer. Donc, il dit son histoire, il la dit bravement, sans indulgence pour lui-même. Et les yeux de Véronique, tandis qu'elle l'écoutait, se faisait plus doux et plus pitoyable. Le désespoir de cet homme, qui avait perdu un bras, ne tenait pas au regret de son bras perdu, mais au sentiment maladif d'avoir perdu l'honneur. Toujours, dans ce qu'il disait, revenait la même plainte. « C'est la faute de cet obus. Si je ne l'avais pas regardé quelques secondes, je n'aurais pas manqué la route. Alors on aurait eu la dépêche, et les hommes qui sont morts seraient vivants. » Aucun détail de son récit n'avait échappé à Véronique. « Voyons, vous ne vous êtes pas arrêté en route ? Non. Vous avez filé tout droit ? Oui, jusqu'au moment où je compris que je devais avoir manqué la bonne route. Je fus frappé avant d'avoir pu la rejoindre. De sorte que vous avez vécu des jours et des jours dans le remords et qu'à la fin, vous avez essayé de vous tuer, mon pauvre ami. » Elle lui prit la main. « À quoi cela eût-il servi ? » Il rougit. « J'avais l'idée que je devais souffrir, que je n'étais plus bon à rien, que je ferais mieux de disparaître. » Sur ses doigts, les doigts de Véronique se resserrèrent. « N'avez-vous donc pas souffert ? Dieu m'est témoin que je ne vois pas que vous ayez aucun sujet de honte. Vous avez affronté la mort, vous y avez couru. Certainement, vous fûtes très brave. » Il tourna la tête d'un mouvement brusque et passionnément regarda la jeune fille. « Véronique, vous ne dites pas cela pour me consoler. Non, non, vous avez risqué votre vie, vous avez été frappé, Henri. Où trouvez-vous un sujet d'avoir honte ?» Il porta la main de Véronique à ses lèvres. « Tout de même, j'ai commis une bévue, » protesta-t-il. « Rien ne peut faire que j'oublie cela. Si seulement je pouvais me rendre utile, revenir là-bas, essayer de faire quelque chose, mais avec ce bras en moins. » « Dieu vous trouvera bien une occupation, » dit-elle. « Tenez, voici qu'il m'inspire une idée. » Elle descendit et presque aussitôt remonta, portant un journal français. On l'avait lu et relu. Il était usé aux plis et sale. S'asseyant sur le bord du lit, Véronique tourna la feuille. « Là, c'est quelques lignes. » « Que disent-elles ? Je vais vous les lire. » Elle lut. Le corps des interprètes de l'armée anglaise, ayant subi de lourdes pertes, on demande d'urgence des volontaires pour combler les vides. Les candidats doivent parler couramment le français. Denison se dressa comme en sursaut, une flamme aux yeux, et poussa un cri d'allégresse. « Mon Dieu ! Mais c'est juste ce qu'il me faut. Et c'est dangereux, magnifiquement dangereux. Je pars aujourd'hui même. » Elle posa le journal, mit ses mains sur les épaules de Denison et doucement le força de se recoucher. « Non, mon ami, non, pas aujourd'hui, ni demain. Nous verrons dans une semaine. Mais vous allez tout de suite envoyer votre demande. Voici l'adresse. » Il la regarda bien en face. « Véronique, vous m'avez sauvé, » dit-il. Dès lors, il se sentit réintégré dans l'espoir, dans l'estime de lui-même. Au bout de 2 jours, il quittait le lit. À la fin de la semaine, il faisait de longues courses à travers les landes et les villages, s'entraînant de corps et d'esprit. Puis, il reçut une réponse à la lettre dans laquelle il se proposait comme interprète. On l'appelait à Paris. Il fuma sa dernière pipe avec le père Calac, mit tout ce qu'il possédait dans un vieux sac de tapisserie qu'on lui prêta, et le lendemain matin, il partit au-devant de la diligence qui arrivait de Sainte-Mélaine. Véronique l'accompagna jusqu'à la croix de granit sur la colline, au-dessus du village. Là, un instant, ils s'arrêtèrent, les mains unies, les yeux confondus. La guerre les avait rapprochés. La guerre les séparait, pour toujours peut-être, il ne savait pas. « Si j'en réchappe, j'en reviendrai, » dit-il. Elle regarda la croix. « Je vais prier pour votre retour, Henri, et je vais vous attendre. » Ils s'embrassèrent. Puis Denison descendit la colline. Véronique, les lèvres agitées comme pour une prière, l'accompagnait des yeux. Elle le vit se retourner pour lui faire un dernier signe. Elle murmura. « Dieu vous garde, mon vaillant ami. » Et des larmes gonflaient ses paupières. Ainsi s'achève Véronique par Warwick Deeping.